des mots pour le dire. Dominique de Michel, médecin et psychanalyste, et Simon Martin.
Les nuits de France Culture, Philippe Garbi, Alban Penaranda, Christine Goémé, Hassan Mbéchour, Virginie Mourtet, nous sommes ensemble jusqu'à 6h du matin.
Jean-Pierre Richard, j'aimerais, pour commencer cette série d'entretiens, vous demander comment vous entendez votre voix.
C'est une émission qui passe au milieu de la nuit, enfin, c'est aux environs de quoi, 2-3 heures du matin.
Enfin, on sait bien par la psychanalyse que le premier geste, si je puis dire, du vivant est d'intérioriser sa mère.
Eh bien, pour la dernière fois sur France Inter ce soir, bonsoir, Macha Béranger avec vous jusqu'à 1h du matin.
Vous n'êtes pas sur France Inter, il n'est pas minuit et je ne suis pas le fantôme de Macha Béranger. Mais c'est bien à un voyage au bout de la nuit auquel nous vous convions, le docteur Demichel et moi-même. Un voyage, pourrait-on dire, dans les coulisses, de l'autre côté du décor, quand le soleil se couche et dévoile un autre paysage. Pour cette première émission qui ouvre la série, nous allons revenir sur les deux faces de la nuit. Car il y a bien a priori deux façons de traverser le territoire de la nuit, en dormant, ou bien en étant réveillé. Ainsi, Jonas, après s'être douloureusement débattu sur sa couche, sombra dans le sommeil, entraîné par le poids d'une prodigieuse misère. Et maintenant, l'heure de la marée est venue. Le navire largue ses amarres et, quittant le quai désert, où personne ne salue son départ, il glisse sur la mer, donnant de la bande vers Tarsi. Mes amis, ce navire fut le premier connu à faire de la contrebande et la marchandise non déclarée, c'était Jonas. Mais la mer se révolte, elle ne veut pas porter ce mauvais fardeau. Un orage terrible se déclare, le navire est sur le point de se briser. Lorsque le maître d'équipage appelle tous les hommes pour alestir le vaisseau, lorsque les coffres, les ballots, les jarres clapotent par-dessus bord, lorsque le vent grince et hurle les hommes et que chaque planche tonne sous le piétinement au-dessus de sa tête, à travers ce tumulte enragé, Jonas poursuit son hideux sommeil. Il ne voit ni le ciel obscur, ni la mer en furie. Il n'entend pas craquer les membrures, à peine perçoit-il ou remarque-t-il dans le lointain la ruée de la puissante baleine qui, d'ores et déjà la gueule béante, fend la mer à sa poursuite. Jonas dort tandis que la tempête gronde. C'était un extrait de Moby Dick d'Herman Melville que vous avez pu entendre. Et je tiens à rendre hommage à celui qui m'a inspiré cette entrée en matière. Il s'agit du témoignage d'un enfant dans le très bon numéro de la revue Archipel sur laquelle je me suis appuyé pour préparer cette émission. Et voilà ce que nous écrit cet enfant. Quand on dort, on ne sait pas qu'il fait nuit. Docteur Dominique Demichel, pour commencer nos émissions sur la nuit, j'aimerais en effet que l'on parle du sommeil.
Oui, le sommeil est une part importante de notre vie. On y consacre en gros un tiers de son existence, hein, ce qui n'est pas rien. Quand on est petit, on dort beaucoup. Quand on est âgé, en général, on dort moins. Le sommeil a de multiples fonctions. Il n'est pas certain, en tout cas dans l'état actuel de mes connaissances et probablement même des connaissances de la médecine, qu'on sache très bien à quoi il sert. Globalement, on pourrait dire qu'il doit servir à trois choses essentielles. Premièrement, au repos physique, en particulier des muscles, des intestins, de plein de fonctions comme ça, qui sont en quelque sorte au repos. Deuxièmement, probablement à tout un système de réparation. Certains ont fait des tas d'études montrant que des processus de réparation de l'ADN en particulier, ou de certains codages pour les protéines avec l'ARN se produisent pendant la nuit. Et puis, vous le savez bien, la nuit et donc le sommeil, ou plus exactement le sommeil et donc pas éventuellement la nuit, le sommeil, c'est le lieu du rêve.
Alors avant de parler du rêve, il y a ce paradoxe, c'est-à-dire que quand on dort, la nuit continue autour de nous. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de... On sent une fragilité de la personne qui dort par rapport à celui qui est éveillé. D'ailleurs, on sait bien que les grands hommes dormaient très peu, ce qui leur procurait sûrement une supériorité par rapport au commun des mortels comme nous, qui avons besoin de quoi 6-7 heures de sommeil.
Moi, je dirais plutôt peut-être un peu plus de 7, hein, je crois. Plus, c'est oui. Important. Hein, même du côté de la créativité, je crois que c'est important.
Donc il y a ce paradoxe qu'on dort, la vie continue autour de nous. Et pourtant, dormir, c'est un endroit protecteur également. C'est ça qui est très étonnant. En psychanalyse, une personne qui dort peut se libérer de certains traumatismes, enfin peut guérir. C'est une forme de thérapie également. Cette dualité, à la fois on est faible et à la fois c'est un endroit qui est sécurisant quand on dort et qui peut nous permettre de nous régénérer.
Je ne sais pas si je vous suis tout à fait, dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses. Il y a bien évidemment une vulnérabilité du dormeur. Hein. Ça, c'est tout à fait fondamental. Et en même temps, dans ce temps du sommeil, il y a quelque chose qui est profondément réparateur, même si on ne sait pas très très bien ce qui est réparé, mais on le sent bien. D'ailleurs, le langage courant le dit, « Ah, j'ai eu un bon sommeil réparateur » ou alors « Il te faudrait un bon sommeil réparateur ». Et vous avez raison de souligner que quand on donne ce conseil, ça peut être après une épreuve physique complexe, par exemple, après plusieurs nuits d'insomnie, mais aussi après un deuil, après un traumatisme psychique, hein, comme si on sentait bien que revenir dans ce temps de la nuit, de la nuit physique, de la nuit psychique, de la nuit émotionnelle, on retrouvait quelque chose de l'ordre des sources. Hein.
Je pensais à ce roman d'Aaron Appelfeld qui s'appelle « L'enfant qui voulait dormir » et qui raconte l'odyssée d'un enfant juif à la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui, pour dépasser les traumatismes de ce qu'il a vu, dort tout le temps. Il passe son temps à dormir et c'est comme ça qu'il survit, quoi.
On peut penser qu'il peut y avoir, je ne connais pas l'ouvrage que vous évoquez, mais on peut penser qu'il y a un double mécanisme dedans. Un mécanisme qui pourrait être une sorte de fuite, hein, de régression, dans le sens un petit peu sombre du terme, hein, c'est-à-dire, voilà, je me retire du monde, je me retire du jour, et j'habite quelque chose de la nuit, mais dans quelque chose qui serait au fond répétitif et un peu mortifère. Mais dans ce retour dans la nuit, et si on pense que le sommeil, puisque vous l'évoquez là, a une fonction éminemment réparatrice, alors on peut penser que peut-être pour cet enfant, et peut-être nous tous dans notre expérience personnelle, nous rejoignons cette possibilité d'apaisement et cette possibilité de renaissance dans le cadre du sommeil.
Et on en vient à cette activité que nous avons quand nous dormons. En effet, on rêve. C'est-à-dire que notre corps, lui, ne bouge plus. Par contre, notre cerveau, on peut dire qu'il turbine.
Voilà, le corps aussi. Le corps aussi.
Le corps aussi.
Voilà, dans la première partie de la nuit, hein, peut-être les 7 ou 8 dixièmes, on a un sommeil en général extrêmement, extrêmement profond, avec un relâchement musculaire. Et d'ailleurs, c'est un conseil que souvent je donne aux mamans, que quand elles se disent « bon, il faudrait peut-être que je le réveille parce que c'est un peu l'heure du biberon, là, il dort depuis longtemps. Est-ce qu'il est prêt à se réveiller ou est-ce qu'il est dans un sommeil profond ?» Il suffit souvent de prendre la main de l'enfant et puis de la soulever doucement. Si la main retombe comme ça, il est dans un état de relâchement. Et dans ces cas-là, il n'est pas du tout prêt à se réveiller. Et si vous le réveillez à ce moment-là, en général, vous n'allez pas être bien accueilli parce que vous ne tombez pas au bon moment. Si quand vous le touchez un tout petit peu, il remue comme ça, ça veut dire qu'il n'est pas nécessairement dans une phase de sommeil très profond. Donc dans la très grande partie de la nuit, la première partie de la nuit, il y a un sommeil très très réparateur sur le plan physique. Dans la dernière partie de la nuit, donc pour ceux du sommeil, je veux dire, donc pour ceux qui dorment la nuit plutôt au petit matin, il y a la phase de du rêve. Le rêve est caractérisé par le fait que on bouge en particulier les yeux. Les yeux bougent énormément parce que le sujet à l'intérieur de lui-même vit une histoire, vit un petit court-métrage dont il est à la fois le metteur en scène, le réalisateur, il a fait le casting, il fait les décors, il a fait le scénario et en général il est acteur. Hein, et probablement il est peut-être même l'acteur unique dans le sens où c'est lui qui met en scène les autres personnages, peut-être on en reparlera. Et pendant ce moment-là, les yeux bougent et souvent le corps bouge, il y a des petits mouvements comme si... Voilà, quand on était en train de courir, le corps courait, quand on était en train de s'allonger, le corps s'allongeait. Voilà, donc ce moment-là est un moment très, très intense, de grande activité cérébrale, de grande activité imaginaire et créatrice.
Alors, une dernière chose sur le sommeil, c'est un acte éminemment solitaire, le sommeil. On dort seul. D'ailleurs, on se souvient peut-être, peut-être ça se fait encore, les couples qui font chambre à part, ouais. On va dormir tout seul, on se retrouve. Et pourtant, on partage aussi souvent son sommeil avec quelqu'un d'autre, ça arrive. Ouais. Alors, est-ce que le fait de partager cette intimité du sommeil avec une autre personne, ça change quelque chose à notre sommeil ou alors, de toute façon, c'est un sommeil solitaire?
Oui, moi j'irais bien dans votre sens, c'est-à-dire que le sommeil c'est quand même quelque chose de très solitaire. C'est un peu compliqué puisque en même temps nous avons des alertes. Hein. Je vais reprendre l'exemple de la maman qui a un nourrisson ou un nouveau-né. Il y a 3 avions de chasse qui passent le mur du son au-dessus de sa tête et qui font pas mal de bruit. Ça ne va pas la réveiller du tout, même si ça fait 70 ou 80 décibels. Et puis, le bébé est dans la chambre d'à côté, il va faire un petit ouin-ouin que personne n'entende, et hop, elle va se réveiller, parce que, évidemment, ses logiciels d'attention sont centrés sur ce qui est important.
On peut imaginer les premiers hommes qui étaient sur le qui-vive tout le temps, et qui, ouais. Le moindre craquement de brindilles, les faisaient sursauter, j'imagine.
Oui. Et en même temps, dans l'exemple que vous avez donné, hein, dans Moby Dick, ici, on voit cet homme qui... paradoxalement a l'air d'être, je ne sais pas très bien, mais quand même le capitaine ou de ce bateau. Et lui, pour des raisons très mystérieuses, il est dans sa propre sécurité intérieure.
C'est Jonas qui dort, oui. Sur le bateau. Jonas dort.
Ouais, ouais. Ouais. Et donc, lui, il dort. Voilà, c'est tout. Donc, manifestement, il doit se sentir subjectivement, dans une subjectivité assumée, en sécurité.
À cette époque, je ne m'endormais pas sans sombrer aussitôt dans une profonde misère physiologique, faiblesse huileuse qui me dégoûtait. Pour bien faire, j'aurais dû ne jamais cesser de veiller sur moi, pour continuer à regarder tourner la pauvre toupie sous les lanières de l'alcool. Mes rêves étaient alors traversés de ripailles extravagantes. Le moindre psychanalyste m'aurait trouvé un garde-manger derrière la tête. Des hallucinations de gigot et d'ortolan m'arrachaient de mon lit. Tendais-je la main vers une biscotte, elle me donnait la nausée. C'était la fin véritable, celle des naufragés ou des captifs au cœur tordu. Un médecin avait parlé d'anorexie des nourrissons. Albert n'était pas atteint, mais sous une forme ou sous une autre, la faim sans appétit, c'était là. Notre mal commun, les dents ne nous étaient pas poussées qui nous auraient donné le goût de mordre dans la vie et cependant nous souffrions de ne pas pouvoir formuler le bonheur ou son absence. « Tu n'es pas perdu, » dit doucement Albert. « Tout n'est pas perdu, puisqu'Odile vient te voir. » « Ce n'est pas pour moi qu'elle vient, c'est pour Wagner. Je n'ai pas trouvé de meilleur appât pour l'attirer ici. » Il exprima qu'il n'en croyait rien. J'ajoutais, « Elle part pour Toulouse ce soir, nous dînons ensemble. Sois avec nous si tu es seul. » Il prit un ton évasif et sentencieux. « Ce soir, il fera nuit. »
Comme je le disais en introduction, il y a deux façons de passer la nuit. En dormant, ou bien en errant dans les rues de la capitale, comme les personnages du poignant roman d'Antoine Blondin, Monsieur Jadis. Ce soir, il fera nuit, remarque Albert, ce qui signifie que cette nuit, tout, une fois encore, peut arriver et que l'aube est encore bien loin. Ne pas dormir, déjà, docteur Dominique Desmichel, c'est pas évident. Il faut s'activer pour ne pas sombrer dans le sommeil.
Énormément de choses sur le plan physiologique, c'est-à-dire de ce qui se passe dans notre organisme, sont organisées pour favoriser le sommeil, hein, puisque ce sommeil est important. Un tiers de notre vie, c'est probablement que ça sert à quelque chose. Hein, voilà. Énormément d'horloges biologiques sont synchronisées avec la sécrétion des hormones thyroïdiennes, de la mélatonine, du cortisol le matin. Donc il y a énormément d'hormones qui instaurent ce rythme. Et d'ailleurs, chez les gens qui ont du mal à dormir, ou même chez les gens qui dorment bien, ils savent très bien qu'à un certain moment, ils commencent un tout petit peu à cligner des yeux le soir, et que l'idéal, c'est d'aller se brosser les dents, ou je ne sais pas trop quoi, et puis ensuite de se mettre dans son lit, et puis on s'endort tout de suite. J'ai l'impression, moi, personnellement, qui a la chance de bien dormir, que c'est ce que j'expérimente. Voilà, hier soir, j'étais en train de lire quelque chose, puis j'ai senti que clic, 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 je mets le marque-page, je ferme, et puis voilà, puis on va se coucher. Hein.
Donc, vous êtes d'accord avec cette idée que quand on a l'audace de ouais. ne pas aller se coucher, et ben dans la nuit, tout peut arriver?
Ce que je crois, c'est qu'à ce moment-là, il y a lieu de se dire qu'est-ce qui fascine, au fond. Parce que la nuit, c'est à la fois quelque chose qui fait peur et quelque chose qui fascine. Et on sait bien qu'il y a des tas et des tas de déploiements de nos activités, ou intérieures, ou extérieures, ou relationnelles, qui appellent, qui convoquent en quelque sorte la nuit. Parce qu'il doit se passer quelque chose, et ça ne peut se passer que dans la nuit. Donc il me semble que c'est dans ce registre-là, au fond, qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'appel de la nuit. Hein. C'est-à-dire, dans la nuit, il y a quelque chose d'un espace entre soi et soi-même, entre soi et l'autre, ou entre soi et le monde, ou entre soi et les autres aussi, qui ouvre un champ relationnel avec soi-même ou avec l'extérieur de nous-mêmes, tout à fait particulier.
Alors, c'est un espace de liberté également. En introduction de cette émission, je suis allé voir ce que les gens écoutaient la nuit à la radio ou à la télévision. Mmh. Et on se rend compte que c'est des programmes, soit des rediffusions ou des trucs très compliqués, mais aussi certaines émissions, dont une qui s'appelle Voyage au bout de la nuit, qui passe à la télé en ce moment, où la présentatrice explique bon, cette émission, on la fait comme ça. Parfois, elle commence plus tôt, parfois, elle commence plus tard. Et puis, il n'y a pas de montage. On garde les « e », on garde tout ça. Il y a une liberté dans la nuit, même au niveau professionnel.
Peut-être parce que le jour, c'est ce qui est cadré, c'est ce qui est tenu, c'est ce qui est rythmé. Hein. Oui, j'ai l'impression de bien sentir ce que vous dites, c'est-à-dire que dans cette nuit, on n'est pas dans les contraintes peut-être du métro-boulot, on va dire, hein, comme ça, et le troisième terme étant dodo. Donc, en effet, dans ce dodo, il y aurait quelque chose qui s'opposerait avant tout au métro-boulot. Et le métro-boulot, c'est donc avant tout la contrainte. Donc, je crois que oui, il y a sûrement quelque chose de cette liberté de la nuit. Et puis, peut-être, au fond, dans notre temps où entre courir et mourir, il faut choisir, le temps de la nuit, on peut le ressentir aussi comme un temps en plus, un temps donné. Alors, peut-être on le prend, pas peut-être, mais à l'évidence, on le prend aussi sur le sommeil, ce qui n'est pas sans poser des problèmes, mais que ce temps-là, ce serait un temps en plus, ça serait du rab, une sorte de rab existentiel dans lequel l'inimaginable, l'inconcevable, l'inaccessible pourrait enfin peut-être se déployer.
Il vous a été donné de travailler la nuit, sûrement, en tant que médecin.
Oui.
Alors, qu'est-ce qui change le rapport au patient la nuit? Comment ça se passe? Ou avec les infirmières?
C'est vrai que vous faisiez allusion à ce numéro d'Archipel. On peut rappeler que Archipel, c'est la petite revue qui sert de lien entre les bénévoles accompagnants ou les bénévoles structures de l'association Jalmav. Jalmav, c'est une association qui accompagne les personnes en fin de vie ou en situation de deuil. Et dans ce numéro-là, consacré donc à la nuit, il y a en effet des témoignages, en particulier de deux infirmières qui travaillent un dans un service un peu de soins palliatifs et l'autre dans un service de psychiatrie, d'alcoolologie, et donc qui accueille les gens. Dans moi, mes souvenirs de travail la nuit, c'est dans deux registres très différents. Un où j'ai travaillé en réanimation, en pneumologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, et où là, on travaillait toute la nuit. C'est-à-dire, il n'y avait absolument pas de pause parce qu'il y avait des machines partout, il y avait des bips partout, il y avait des écrans. On recevait avec les fax des résultats de prise de sang. Donc, en gros, c'était quasi comme le jour. Mais c'était en même temps la nuit, c'est-à-dire il y avait la nuit autour, il y avait une certaine forme de silence, on ne marche pas de la même façon, on ne parle pas de la même façon, on n'a pas la même relation avec les patients, en sachant que dans le service de réanimation, il y avait quand même beaucoup de patients qui étaient intubés, donc ils ne parlaient pas. Voilà, c'était quelque chose quand même qui était très très stressant, très tendu. Et je sais que avant de faire ce travail-là, j'avais très envie d'être réanimateur et que à la fin, j'étais sûr que je serais jamais réanimateur.
Alors, il y a le silence de la nuit, vous en avez parlé. Ça, c'est quelque chose de... On sait que le silence peut être aussi angoissant.
Alors justement, dans l'autre expérience que j'en ai, c'est lorsque j'étais de garde dans une clinique médico-chirurgicale et donc qui recevait les urgences de la nuit au même titre que le service public. Et là, donc le plus souvent, je dormais quand même dans une petite pièce qui ressemblait à tout sauf une chambre. Et puis, donc, la personne de garde me réveillait. Et donc, j'allais accueillir les patients. Et la nuit, c'est avant tout lié pour ces gens-là à l'angoisse. Parce que de temps en temps, il y avait une véritable urgence objective. Mais quand même, dans un grand nombre de cas, l'urgence était une urgence subjective. C'est-à-dire, il y avait un vécu d'angoisse par rapport à un symptôme qui, de temps en temps, n'avait pas une grande importance et aurait pu attendre le lendemain. Donc, par rapport à ce que vous disiez du silence, oui, il y a un silence contenant, un silence paisible, un silence tranquille, un silence reposant. Mais pour les médecins, en tout cas, ici, c'est plutôt un silence angoissant. Hein. Donc, on se lève la nuit, l'hôpital ou la clinique est en général extrêmement silencieux. Et puis surgit la demande, l'urgence et l'angoisse du patient qui vient avec un symptôme médical ou un symptôme chirurgical.
Est-ce que le temps, lui, également est différent ? Est-ce qu'on a l'impression qu'il devient un petit peu élastique ?
Je crois que il y a deux types de temps, il me semble, la nuit. Il y a le temps qui est vide d'agir. Et ce temps vide d'agir... Je pense qu'il se déforme, je dirais. Il me semble qu'il se déforme. Le temps qui est rempli de l'agir, d'un agir effectif, où il s'agit de... Je ne suis pas sûr qu'il soit radicalement différent du temps du jour. Mais le temps qui est un temps associé à un vide, de ce vide peut-être sidéral ou de ce vide énorme qu'il y a entre le noyau d'un atome et puis les électrons qui gravitent autour. En effet, ce temps-là, il est vécu subjectivement et en particulier émotionnellement de manière assez radicale.
Alors, il y a une autre catégorie de gens qui ne dorment pas, et là, ça peut être très grave, ce sont les insomniaques. Tous les témoignages d'insomniaques sont bouleversants. C'est une expérience qui est totalement traumatisante, et qui pour certains, je pense au philosophe Émile Cioran, qui était insomniaque, a dit que ça lui avait totalement transformé sa vie. S'il était comme ça, c'est parce qu'il ne dormait pas la nuit, et qu'il arrivait à avoir des espèces d'hallucinations à la fin, à l'aube.
Pour pouvoir s'endormir, je sens bien que ce que je vais dire, c'est un tout petit peu du cliché et c'est profondément réducteur, mais c'est juste pour ouvrir à l'intérieur des auditeurs une sorte d'espace de réflexion. Hein. Pour pouvoir s'endormir, il faut avoir à l'intérieur de soi-même un minimum de sécurité. Et il faut avoir donc à l'extérieur un minimum de sécurité. Hein. Les gens qui arrivent en prison, les otages, les gens qui ont une intervention chirurgicale le lendemain, les gens qui vont avoir une réponse à une question, l'angoisse les maintient éveillés. Hein. Donc on sent bien que pour pouvoir s'endormir, il faut être un minimum tranquille. C'est-à-dire, au fond, avoir une sorte d'espace je dirais contenant, maternel, que l'on a pu intérioriser. Je crois d'ailleurs dans votre petit extrait, au tout début, il y a quelqu'un qui cite en disant « Le premier acte du nouveau-né, c'est d'intérioriser une mère ». Moi, je dirais intérioriser le maternel, hein, parce que c'est plus large que la maman. Donc, il nous faut une mère veilleuse, une mère qui veille à l'intérieur de nous-mêmes pour pouvoir nous endormir. Donc, c'est difficile de savoir, dans l'exemple de Suran que vous citez, si c'est parce qu'il dormait mal qu'il a construit son existence et écrit quand même dans une perspective assez sombre et pessimiste son œuvre littéraire, ou c'est parce qu'à l'intérieur de lui-même, quelque chose de cette merveilleuse était profondément absente. Mais il est certain que ne pas dormir est toujours une énorme, énorme épreuve en termes de fatigue physique, en termes de fatigue psychique et aussi en termes de mémorisation. J'en ai pas parlé tout à l'heure, au début de l'émission, mais les processus de mémorisation, en particulier de mémorisation profonde, c'est-à-dire de mémorisation durable dans une mémoire à long terme, se passent la nuit.
On arrive bientôt au terme de cette émission. On ne peut pas finir sans ce passage de la nuit à l'aube, au matin. Le soleil se lève, et alors pour les insomniaques, c'est une délivrance. Pour celui qui se réveille, c'est parfois le contraire. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce passage de la nuit, de l'ombre à la lumière ?
Peut-être toute la complexité de la dualité du monde. Hein. L'enfant in utero, et je pense qu'on reviendra sur cet espace de la nuit utérine, l'enfant in utero connaît relativement peu la dualité. Hein. Il ne connaît pas trop la notion de « j'ai faim, je suis rassasié », du jour ou de la nuit, un petit peu, parce que quand le ventre maternel est très éclairé, c'est pas la même chose que quand il y a un gros manteau qui couvre la mer. Il ne connaît pas le chaud et le froid. Et donc, cette dualité profonde, l'enfant la ressent dès sa naissance. Et on peut penser que le passage de la nuit à l'aube, c'est le premier passage. C'est-à-dire que le passage du jour à la nuit, c'est un passage chronologiquement secondaire, ontologiquement secondaire, phylogénétiquement secondaire. C'est-à-dire, d'abord, il y avait la nuit. À notre échelle, à nous, la nuit utérine, et que la naissance, c'est la sortie de la nuit utérine. Le Big Bang, c'est la sortie de la nuit sidérale. Voilà, donc je crois que l'aube, c'est très associé à la naissance. Peut-être c'est la même chose que la naissance. Donc, je trouve que c'est vraiment très intéressant que vous repreniez ça pour terminer l'émission, c'est-à-dire en se disant que la notion du commencement, ça serait la notion de l'aube. C'est la fin de la nuit, mais c'est surtout la venue au jour, c'est-à-dire la naissance, c'est-à-dire le commencement de tout. Au début était la lumière.
Enfin, notre émission. Merci à Christophe Jubien qui a prêté sa voix. On se retrouve dans 15 jours, le docteur Dominique Desmichel et moi-même, pour continuer à explorer le domaine de la nuit.